le sens de l'humour. Je ne sais pas si vous pensez ça, mais Marie-Christine et moi, on n'aurait pas dû être là. Hein. En fait, je ne viens pas d'une famille chrétienne. À la base, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans. Ça va, je ne parle pas trop vite? Ça ne vous gêne pas? Parce que dans le Sud, on parle vite. Alors si jamais je deviens un peu trop passionné, vous me dites comme ça, je me calmerai. Ça fait donc à l'âge de 23 ans, je rencontre le Seigneur. Et puis il y avait des gens dans ma ville, à l'époque c'était Marseille, qui étaient là, c'était une bande de missionnaires. Et voilà que je rencontre un gars de mon âge. J'étais travaillé par Dieu. Et un gars de mon âge qui me parle du Seigneur, il venait d'un arrière-plan musulman. Il me parle de Jésus-Christ et il m'introduit auprès de quelqu'un qui est arrivé dans sa cité et qui parle de Jésus-Christ. Il me le présente comme une espèce de pasteur. Je n'avais jamais rencontré un pasteur de ma vie. Moi, j'étais chanteur dans un groupe de rock et les pasteurs et les églises, je ne connaissais pas. Alors, un gars qui vient d'Irlande, dans sa cité, dans les quartiers nord de Marseille, c'est de là que je viens aussi, j'ai voulu le rencontrer. Et puis, j'ai vu que ce gars-là, il parlait un langage que je pouvais comprendre, malgré son accent irlandais. C'était la première fois que je comprenais des trucs dans la Bible. Une histoire de bien et de mal, de quelqu'un qui doit venir pour écraser la tête d'un serpent, l'histoire de l'humanité qui est complètement loin de Dieu. Et je comprenais tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Je suis allé à 1, 2, 3, 4 études bibliques. Un jour, j'ai posé la question, comment est-ce que tu peux être sûr? Comment est-ce que tu peux être sûr que tout ça, ça vient de Dieu et pas des hommes? Tu t'es jamais posé cette question? Comment tu peux être sûr que ça vient de Dieu et pas des hommes? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, demande à Dieu. Des années après, je lui en ai reparlé. Vous connaissez ce gars, il s'appelle Samy, il a été orateur à la convention aussi, Samuel Gibson, Samy, pour les intimes. Et il ne se rappelait même pas de m'avoir répondu ça. Demande à Dieu, je l'ai pris au mot, j'ai été demandé à Dieu. Au nord de Marseille, il y a une campagne qui s'appelle le Luberon. C'est magnifique. On mange des melons, on boit du très bon vin. Je n'ai pas mangé de melon, je n'ai pas vu du vin. J'ai juste amené un Nouveau Testament et j'ai commencé à lire le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. J'étais seul dans une maison et j'ai senti une présence immense. J'ai eu peur. J'ai continué à lire l'Évangile de Jean, premier chapitre, et tout en lisant, je sentais que cette présence, elle était là. Je ne pouvais pas la nier. Alors j'ai dit un truc un peu stupide. J'avais tellement peur. J'ai dit, écoute, parce que apparemment c'était Dieu, non? Si tu existes, si c'est toi, et si on va devenir amis, alors dis-moi ton nom. Moi, je suis Philippe. J'ai continué à lire parce que je n'ai pas eu de réponse. Ton nom. Et puis c'était marqué, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'ai des origines juives. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là j'ai compris, Jésus-Christ c'est le nom de Dieu. Et j'ai été convaincu de la vie de Jésus-Christ, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il était vivant, il est vivant, et c'était lui qui me parlait. Vous savez, le Saint-Esprit, il représente Jésus-Christ, il continue l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Et bien sûr, Jésus-Christ me parlait au travers du Saint-Esprit, j'en savais rien. Alors, en présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'agenouilles et tu dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Jésus-Christ, alors c'est vrai toute cette histoire, alors il est vivant. Et là, tu le sais, toi, personnellement. Et puis, tu vois ta vie défiler, et ça c'est une mauvaise affaire, hein, parce que la tradition, les histoires, tu sais que tu as vu des films où le gars, le héros, il voit sa vie défiler, et ça veut dire qu'il va mourir. Et moi je pensais, je vais mourir, parce que je voyais toutes les choses que j'avais faites, et je voyais que j'appartenais au monde des ténèbres, et lui c'était la lumière. Les ténèbres et la lumière, ça ne matche pas ensemble. Hein. Et puis j'ai compris quelque chose dans mon cœur. Je n'avais pas tout compris en détail, mais j'ai compris une chose. J'ai compris que je ne mourrais pas. Et j'ai compris que je devais me relever. Que je devais me relever et parler de ce Dieu qui m'a parlé et que chaque fois que j'en parlerai, je serai devant une foule. et que j'en parlerai. Et cet homme qui vous parle ce matin, ben c'est moi. Si je me tiens devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu uniquement. Et je me sens complètement indigne de parler de ce que vous m'avez demandé de parler. Vous m'avez demandé de parler du Saint-Esprit. Vous m'avez demandé de parler de Dieu. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Mon épouse Marie-Christine s'est convertie un mois après moi. Elle a vécu quelque chose de similaire, mais avec son autre arrière-plan, ça s'est passé d'une manière un peu différente. Elle est arrivée à la même conclusion, guidée par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est vivant. Et si Jésus-Christ est vivant, ça change tout. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ. Et si je peux dire quelque chose, c'est que c'est grâce à Jésus-Christ que je peux parler et partager les quelques pensées que je vais partager maintenant avec vous en toute humilité sur la personne du Saint-Esprit. Alors, juste un petit mot pour le programme. Je vais parler du Saint-Esprit et de l'Écriture. Le Saint-Esprit et l'Écriture. Ça sera ma première intervention. Un petit peu plus tard dans la matinée, on va parler du Saint-Esprit et des croyants. Et puis cet après-midi, si Dieu veut, on parlera du Saint-Esprit et de la mission. Ça va ? Et si je commence maintenant ce matin par le Saint-Esprit et l'Écriture ? Parce qu'il y a quelque chose que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit, on ne peut pas en parler autrement que par l'Écriture. L'Écriture est la seule base qui nous donne autorité pour dire quoi que ce soit sur le Saint-Esprit. Au-delà des expériences personnelles, c'est la Bible, c'est l'Écriture qui reste le témoignage suprême sur ce que nous devons savoir sur le Saint-Esprit. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais qu'on cite ce verset dans 2 Timothée 3,16 que vous connaissez peut-être. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Si je peux me permettre, le mot « inspiré », en français, ça ne le fait pas. Mais en grec, c'est écrit d'une autre façon. Ce n'est pas marqué « inspiré » de Dieu, c'est marqué « soufflé » de Dieu. De Dieu. Toute Écriture est soufflée de Dieu. Le mot « esprit » et le mot « souffle », que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, c'est la même chose. Vous respirez, vous êtes vivant, parce que vous avez le souffle en vous, le souffle de vie. Eh bien, c'est le même mot « souffle » qui est employé pour le mot « esprit » dans la Bible. Et donc, quand on dit « toute Écriture est inspirée de Dieu », c'est-à-dire que c'est carrément ce que nous lisons, la Bible, c'est carrément le souffle de Dieu qui est écrit sur des pages avec de l'encre, sur du papier ou sur un logiciel, sur votre ordinateur, qui est écrit en français, en belge, dans tous les langages du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis que ce livre vous l'ayez et que vous puissiez le lire. Alors c'est ce livre et ce livre seulement qui peut nous enseigner des choses sur l'Esprit. Qu'est-ce que dit la Bible sur l'Esprit ? Quand on parle du Saint-Esprit, quand vous avez vu ce thème, goûter aux fruits de la passion, qu'est-ce qui a traversé votre tête ? Rien ? Vous avez dit, c'est une convention de plus, on va y aller. Tiens, c'est intéressant, le Saint-Esprit. Il va nous parler du parler en langue, peut-être, ou bien il va nous parler du baptême de l'Esprit, ou bien on va en parler un petit peu. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on fait souvent allusion à des expériences. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie ? Vous voyez ? Il faut l'avouer, non ? Est-ce que ça ne serait pas mieux de parler du Saint-Esprit d'abord pour qui il est, lui ? Plutôt que d'abord d'aborder qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, dans mon univers, dans moi, dans mon royaume. Est-ce que ça ne serait pas mieux de nous intéresser au Saint-Esprit pour ce qu'il est, lui ? Il y a un regard que le Seigneur veut nous donner dans la Bible, c'est de nous intéresser à Dieu, de nous décentrer de nous-mêmes et d'essayer de voir qui il est, lui. Qui est le Saint-Esprit ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question ? Comment il est ? Qu'est-ce que c'est sa personnalité ? Quand vous rencontrez quelqu'un, Vous avez rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Vous n'avez pas juste rencontré une espèce de machine, quelqu'un qui vous a dit des trucs, et vous êtes parti en oubliant même que c'était quelqu'un. Quand on parle du Saint-Esprit, est-ce qu'on parle de quelqu'un? La première des choses que nous enseigne la parole, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Le Seigneur, dans son ordre de mission, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez la Trinité? Parce que moi, je ne la comprends pas. La Trinité ne se comprend pas. La Trinité se révèle. Vous ne pouvez pas expliquer la Trinité. Vous avez remarqué en tant que chrétien, quand on vous pose la question, tu crois en un Dieu en trois personnes, comme on se sent un petit peu embarrassé. On essaye de prendre des exemples qui sont plus ou moins limités, et on n'arrive pas. Parce que le jour où tu arrives à expliquer la Trinité, ça veut dire que tu arrives à expliquer Dieu. Ça serait dangereux d'expliquer Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne s'explique pas, il se révèle. Si tu ne comprends pas la Trinité, va vers le Fils. Si tu ne comprends pas le Père, va vers le Fils. Si tu ne comprends pas l'Esprit, va vers le Fils. C'est le Fils qui révèle la Trinité. Il est un fait que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, une des trois personnes de la Trinité. À Aix-en-Provence, on fait des plein air une fois par semaine, on va dans un parc. On travaille parmi les étudiants. Dans ce parc, on est dans le sud de la France. Pelouse, il fait chaud, les cigales. Tu vois l'ambiance? Les gens sont assis par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des gens qui n'ont pas le Seigneur. Tu t'assois par terre, tu parles avec eux. On a des jeux de cartes, ils jouent aux cartes. On a des jeux de cartes, des cartes qui expliquent l'Évangile. On fait aussi des manifestations artistiques. Ça peut être des tags, ça peut être de la musique. Juste comme ça. Et puis, on a du café, on boit du café. Et puis, on parle avec les gens. On a pu ainsi, par la grâce de Dieu, expliquer l'Évangile en détail à des centaines d'étudiants depuis 2 ans. Et il y a une chose qui m'interpelle, qui nous a interpellés chez la plupart de ces étudiants. Souvent, les gens disent, aujourd'hui, les jeunes, ils ne croient plus en rien. C'est complètement faux. Ça, c'était vrai peut-être au siècle passé. Mais au XXIe siècle, les jeunes, ils croient en quelque chose. Et ils nous disent, pour moi, Dieu, il est peut-être dans les arbres. Ou il est peut-être dans la nature, c'est une espèce d'énergie. Alors, on les a appelés les quelque-chosistes. Parce que pour eux, Dieu n'est pas quelqu'un, il est quelque chose. Et vous voyez, j'ai l'impression que nous, dans notre monde évangélique, on fait un peu la même erreur avec le Saint-Esprit. On pense que le Saint-Esprit, il est quelque chose, comme une espèce de puissance. Mais non, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est quelqu'un. Il est la troisième personne de la Trinité. Ne soyons pas quelque-chosistes avec le Saint-Esprit. Nous n'avons aucun problème avec Dieu le Père en tant que personne, avec Dieu le Fils en tant que personne. Mais nous avons quelquefois un petit peu plus de mal à concevoir que Dieu le Saint-Esprit soit une personne à part entière. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. En fait, il a toutes les qualités de Dieu. Il est Dieu. En 2 Corinthiens 2,10, vous apprenez qu'il est omniscient, il sait tout. Absolument tout. Lisez le verset. Au psaume 139, au verset 7, vous voyez qu'il est partout. On ne peut pas trouver un endroit pour se cacher de lui. Vous pouvez aller à l'autre bout de la terre, il est là. Dans les ténèbres même, il est là. Dans la lumière, il est là. Quand vous êtes dans votre lit, seul, il est là. Quand vous êtes au milieu d'une foule, comme dans la convention, il est là. Il est partout. Et puis, dans Zacharie 4,6, on apprend qu'il peut tout, qu'en fait, tous nos efforts ne sont rien et que c'est uniquement grâce à sa puissance qu'on peut accomplir les desseins de Dieu. Donc, vous voyez, juste 3 attributs, très rapidement. Il sait tout, il est partout, il peut tout. Dites-moi, qui c'est qui est partout, qui peut tout et qui sait tout. Ce sont les attributs de Dieu. Et il y en a bien d'autres qui sont développés dans la Bible, mais je ne vais pas faire une étude. Il est évident que la parole nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu à part entière. Ce n'est pas un petit Dieu. Il y aurait le grand Dieu, le Père, un Dieu intermédiaire, Dieu le Fils, et puis un petit Dieu, Dieu le Saint-Esprit, c'est le nôtre, le Dieu des chrétiens. Non, il est Dieu à part entière, avec tous les attributs, toute la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on commence une convention sur le Saint-Esprit, mais commencer à parler de lui, avant de parler de ce qu'il peut faire dans nos vies. Le temps me manquerait pour vous dire qu'il a un caractère propre. Il faut apprendre à le connaître, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui est rarement en face de nous. Il est souvent à nos côtés. Et comme les personnes qui sont à nos côtés, on oublie quelquefois de les observer avec attention. Mais elles sont là, ces personnes. Elles sont importantes. Il a un caractère propre. On apprend dans Romains 1:4 qu'il est saint. Dans Ésaïe 11, on apprend qu'il est sage, intelligent, qu'il est la vérité, Jean 14. Il ne va jamais nous mentir, c'est une bonne nouvelle. Il est le consolateur. C'est encore dans l'évangile de Jean. Vous voyez la scène ? On est des milliers d'années dans une cité grecque. Ta-ta-ta. Vous avez le tribunal et quelqu'un qui est devant le tribunal, accusé. Il va être condamné à l'exil, à perpétuité. Vous voyez la scène ? Il baisse la tête, il se sent misérable. La foule se tient derrière lui, immobile, silencieuse. La sentence va tomber. Soudain, un murmure. Derrière l'accusé, la foule s'écarte. Un homme passe. Il est habillé avec une toge blanche. On le regarde avec respect. Il se tient à côté de l'accusé. Il étend un pan de son manteau sur les épaules de l'accusé. Cet homme s'appelle le Paraclétos. C'est un avocat qui, dans le tribunal grec, a le pouvoir unique de justifier la personne qui vient d'être accusée. La toge blanche sur les épaules de l'accusé le blanchit à jamais. La condamnation qui tombait sur lui n'a plus effet. Le bannissement est oublié. Il peut rejoindre la foule. Il reste citoyen de sa cité. Le consolateur, Paraclétos, c'est de là que ça vient. Ce n'est pas juste quelqu'un qui nous tape une tape dans le dos quand ça ne va pas bien. Il m'a consolé. Non, non, non. C'est beaucoup plus que ça. Il est quelqu'un qui nous justifie légalement devant le tribunal de Dieu. C'est pour ça qu'il est tellement important d'avoir le Saint-Esprit à nos côtés dans notre vie. Il est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Il est l'esprit de grâce. Il est un esprit de gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Quelle personne extraordinaire! Comme souvent nous l'avons minimisé, il est infini dans toutes ses dimensions. Il parle. Dans le livre des Actes, il prend souvent la parole. Une influence ne parle pas, une force ne parle pas. Pour parler, il faut être quelqu'un. Il sonde tout, il rend témoignage. Quand il sera venu, le Consolateur, il rendra témoignage. Quand vous rendez témoignage et que vous ouvrez la bouche pour dire que vous êtes chrétien et que vous expliquez ce qui vous est arrivé, avez-vous vu ce qui se passe souvent ? L'avez-vous expérimenté cette semaine ? Cette joie immense d'être conscient que le Seigneur passe par vous pour parler. Mais c'est une joie immense de savoir que c'est le Saint-Esprit qui guide nos paroles. On commence les phrases, on dirait qu'il les termine. Et on se dit à la fin, waouh, comme j'ai bien parlé. Seigneur, merci de m'avoir aidé. Il rendra témoignage et son témoignage est puissant. Il intercède, oui, c'est celui aussi qui intercède, chaque fois qu'on prie. Chaque fois qu'on prie, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit. Vous voyez l'image ? Un grand maître de piano, un virtuose, est en train de jouer. À côté, une petite fille, avec ses petits doigts, essaye de jouer aussi sur le piano. Ce qu'elle fait, c'est que des fausses notes, n'est-ce pas ? Mais elle veut faire comme le grand maître. Et le grand maître joue tellement bien que tout ce que fait la petite fille, ça sonne comme une grande symphonie. Quand tu pries, tes prières maladroites ressemblent à la petite fille qui tape sur les touches du piano. Mais le Saint-Esprit qui est en toi rend tes prières comme une symphonie devant le trône de Dieu. Il intercède par des soupirs inexprimables. Voilà de qui nous parlons. Nous parlons du Saint-Esprit. Je voudrais vous raconter son histoire, brièvement. Son histoire dans l'Ancien, dans toute l'Écriture, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce que le Saint-Esprit a une histoire. La première fois qu'il apparaît, on dirait qu'il est comme un aigle. Je dis bien comme un aigle. La Bible a été écrite par des gens de culture orientale, n'est-ce pas ? Vous et moi, quand on dit comme un aigle, on est des occidentaux et on ne comprend pas le message. Parce qu'on pense que c'est une comparaison. Mais la Bible ne compare rien à Dieu. Quand la Bible parle du Saint-Esprit et qu'elle le compare à, par exemple, un aigle, on verra d'autres choses plus tard, elle ne veut pas dire qu'il est comparable à un aigle. Elle emploie ce qu'on appelle une métaphore. Vous êtes toujours avec moi ? Une métaphore ? Une métaphore, c'est quelque chose qui ne compare pas l'aspect, mais l'effet. Vous voulez un petit exemple ? Juste. Si je dis, ton amour, ma chérie, me fait l'effet du vin. C'est dans le Cantique des Cantiques. On ne parle pas d'un vin rouge, ou d'un vin blanc, ou d'un vin rosé. En fait, on s'en fiche complètement de la couleur du vin. Ce n'est pas une comparaison, c'est une métaphore, c'est l'effet. Ton amour me fait l'effet de l'ivresse, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Quand on parle du Saint-Esprit comme d'un aigle, on parle de l'effet. La première fois qu'on parle de lui, il me semble, c'est dans le livre de la Genèse, il est écrit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et là, il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit qu'il ne faut pas traduire esprit, puisque esprit, ça veut dire souffle. On va dire que c'est le souffle de Dieu, c'est le vent de Dieu. Deux objections. Pourquoi il ne faut pas traduire par vent, mais qu'on peut vraiment traduire par esprit. Deux objections. La première, c'est qu'il n'y a rien dans ce chapitre de la Genèse qui parle de quelque chose de Dieu. On ne parle pas de la terre de Dieu, on ne parle pas des arbres de Dieu, on ne parle pas des animaux de Dieu, on ne parle pas de la mer, des océans de Dieu, on ne parle pas des étoiles de Dieu. Pourquoi on parlerait du vent de Dieu ? Si ce n'est que ce vent est spécial, il est lié avec Dieu. Deuxième objection, on dit que ce de Dieu plane. Vous avez vu un vent planer, vous ? C'est comme ça que vous parlez du vent ? À Marseille, quand le Mistral souffle, on ne dit pas qu'il plane, on dit qu'il souffle. Dans la Bible, on ne dit jamais qu'un vent plane. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Et bien sûr, le fait de planer fait penser à un immense aigle. Quel est l'effet de l'aigle ? Oubliez la comparaison. Quel est l'effet de l'aigle ? Le contrôle absolu. Il est au-dessus de tout. Il a le contrôle. Et il voit les détails, l'aigle voit les détails, les petits détails. Et puis il peut fondre sur la scène et revenir là où il est. C'est l'aigle. Et juste après, le décret que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand on pense à la Trinité, quand on pense à ce mot pluriel de Dieu dans le livre de la Genèse, qui est une introduction à la Trinité, bien alors on se dit, qu'est-ce que l'Esprit fait ici ? J'ai envie de dire, c'est comme un ingénieur dans la Trinité. Le Père dit les choses. Nous savons dans le Nouveau Testament que toute la création passe par le Fils, car tout a été fait par lui et pour lui. Mais tout a été fait avec le concours de l'Esprit. Trois petits mots. Deux pour le Père. Tout vient de Dieu. Par pour le Fils. Tout est fait par le Fils. Avec pour l'Esprit. Tout est fait avec le concours de l'Esprit. Et oui, je crois que cet aigle majestueux fond sur la scène, obéit au décret. Il n'y a que lui qui peut obéir à ça, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire les décrets divins. Et il les rend possibles. Arbre, homme, lumière, étoile. Extraordinaire cette personne, non ? Mais pourtant, cette personne qui est extraordinaire a été limitée. Elle a été limitée dans l'Ancien Testament à cause de notre péché. Dieu lui-même dira « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et donc Dieu a limité le ministère de l'Esprit. Dans la Trinité, il y a dû avoir un conseil secret auquel nous n'avons pas assisté. Et à cause de notre péché, à cause de notre mauvais cœur, le Saint-Esprit a été limité. Il n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire dans l'humanité. Et le ministère de l'Esprit a été limité pendant des siècles. C'est tout l'Ancien Testament, où il est comparé à souvent de l'huile, vous savez, l'onction de l'huile qui coule, et l'onction coulée sur les rois, sur les sacrificateurs, sur les prophètes, des ministères limités, pour des offices limités. Bien sûr, il y a eu des gens qui ont vécu le Saint-Esprit. David parle dans ses psaumes de la joie du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas distribué avec abondance. Il était distribué avec parcimonie, à cause du mal qui règne sur la planète et du plan de Dieu qui devait s'accomplir. Mais c'est évident que Dieu avait en vue quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et certaines personnes l'ont vu. C'est nos petits frères qui ont vécu des siècles avant nous. Regardez Jérémie, chapitre 31, ce qu'il dit. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il devait venir un jour où le Seigneur se manifesterait dans le cœur de ceux qui appartiennent à son peuple, en grand nombre. Vous connaissez la fois suivante où on voit le Saint-Esprit agir avec puissance dans la Bible ? La colombe ? Ça vous dit quelque chose ? La colombe ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, une colombe ? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit descend sur le Christ lors de son baptême sous une forme corporelle comme une colombe ? Qu'est-ce qu'évoque la colombe pour vous ? La paix ? La pureté ? En ce temps-là, on n'avait pas de GSM. On n'avait pas de texto qui pouvait arriver à tout moment. Quand on envoyait un message à quelqu'un, on envoyait un pigeon voyageur. Ça pouvait être une bonne nouvelle comme une très mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui te déclare la guerre, quelqu'un qui te demande de l'argent, quelqu'un qui va marcher contre toi pour venger quelque chose et te tuer. Un pigeon voyageur, tu ne savais jamais ce qu'il pouvait t'apporter. Sauf quand le pigeon voyageur était une colombe. Alors le message qu'il contenait était toujours un message de paix et d'amour. Quand le Saint-Esprit vient sur le Christ sous une forme corporelle comme une colombe, quel est l'effet de la colombe ? C'est la bonne nouvelle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est envoyé, et il n'est pas envoyé pour punir, il n'est pas envoyé pour châtier, pour tuer, torturer. Il est envoyé pour apporter une bonne nouvelle. On est passé à un cheveu de la catastrophe. Mais grâce au ministère de Christ, le Saint-Esprit comme une colombe. La fois suivante où on voit le Saint-Esprit, le Seigneur en parle dans Jean 3. Il en parle très bien, le Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Et il parle du Saint-Esprit comme du vent. Vous vous souvenez de ça? Quand on voit cet arbre, est-ce que vous le voyez, le vent? Si vous le voyez, venez me voir à la fin, parce que moi, je ne le vois pas. Par contre, je vois les effets du vent. Ça doit être certainement un mistral de force 10 hein, qui souffle. Oui, c'est comme ça que ça souffle chez nous, et je pense chez vous aussi, ça peut souffler très fort. On peut pas voir le vent, mais on voit les effets du vent. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on voit ses effets. Il est quelqu'un comme ça. Vous voyez, on ne le voit pas, mais on voit ce qu'il fait. Message. La fois suivante, on voit encore le Saint-Esprit dans la bouche de Jésus. Quand Jésus parle, il parle de ceux qui ont reçu l'Esprit. Et il parle des grandes eaux. Le Saint-Esprit sera comme des grandes eaux. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit comme des grandes eaux. Près de chez moi, il y a un endroit, un parc qui s'appelle Gémonos. C'est un parc où il y a une source. Quand vous montez jusqu'à la source, vous êtes très, très étonné, surtout en Provence où c'est très sec, de voir de l'eau de partout. Des canaux, il y a des arbres, il y a des systèmes d'irrigation. Ça date d'un monastère cistercien, peu importe. Ils avaient compris que cette source était une source abondante. Une source a pu abreuver toute une région. Le christianisme, le message de l'Évangile est un message qui part de l'intérieur. Celui qui a reçu l'Esprit Saint, dit le Seigneur, sera comme des fleuves. Et il suffit des fois d'un chrétien qui laisse le Saint-Esprit agir pour que l'Évangile se répande dans toute une région, dans tout un pays. Alors vous imaginez la convention des APEB? Ça peut donner beaucoup, beaucoup d'eau, ça, en Belgique. Je sais que vous n'en manquez pas. Mais je parle de l'eau du ciel, ce coup-ci, vous voyez? De ce que ça peut donner en Belgique, quand les chrétiens et les chrétiennes qui ont reçu ce Saint-Esprit laissent cette source se répandre et parler autour d'eux de ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, les grandes eaux, le Seigneur en a parlé. Vous êtes la source, vous avez reçu cette source. Et les grandes eaux, eh bien c'est l'œuvre du Saint-Esprit, au travers de son Église. Oui, quand il arrive sur la scène, je vais bientôt terminer avec cette image, l'image des langues de feu. Nous sommes après la résurrection du Seigneur. Il a enseigné 40 jours sur le royaume de Dieu, et puis plusieurs semaines après vient la Pentecôte. Une semaine après vient la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit descend sous une forme, les langues de feu. Mais il y a aussi le grand vent qui fait parler. On sait maintenant ce qu'il veut dire. C'est moi, l'Esprit, le vent. On comprend ces choses-là, les langues de feu. On a tellement parlé de ces langues de feu. Que fait une langue? La métaphore est évidente, n'est-ce pas? Une langue parle. Et elle parle de quoi? Elle va parler des merveilles de Dieu. Et parler des merveilles de Dieu va engendrer quoi? Va engendrer la grâce pour certains et le jugement pour les autres, le feu. L'Église est un bébé, c'est le jour de la Pentecôte. 120 personnes se réunissent pour prier. Le Saint-Esprit descend officiellement sur l'Église et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit habitera l'Église. C'est son entrée historique sur la scène planétaire. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à ce bébé qu'est l'Église? Tu as une vocation missionnaire. Tu parleras toutes les langues du monde. Effectivement, la Bible est traduite en combien de milliers de langages et de dialectes? Dieu ne parle plus uniquement hébreu. Il parle toutes les langues du monde et vous l'avez entendu dans votre propre langue. C'est un effet de la Pentecôte. Au-delà du signe, l'effet du signe, parler toutes les langues du monde, et c'est exactement ce qui se passe. Est-ce que vous avez à cœur de parler à toutes les nations? Si vous avez à cœur de parler à toutes les nations, alors vous commencez à partager les pensées du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veut parler à tout le monde. Le laisser agir, c'est répandre le message de l'Évangile dans toutes les civilisations, dans toutes les ethnies, dans tous les groupes de personnes. Le Saint-Esprit est le signe de la nouvelle alliance. Il y a de cela 2000 ans, le jour de la Pentecôte, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ma conclusion est la suivante. Souvent, lorsqu'on pose cette question, même aux chrétiens, quel est le signe de la nouvelle alliance ? Ils répondent le baptême, ou bien, le pain et le vin ? Non, ça c'est des ordonnances. Quel est le signe de la nouvelle alliance ? Pour Abraham, c'était la circoncision. Pour nous, c'est quoi ? C'est le plus grand signe qui a jamais été donné dans l'histoire de l'humanité. Ce signe est la troisième personne de la Trinité. Le signe de la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Lui-même, c'est l'alliance la plus forte qui a été contractée par Dieu. Et nous en faisons partie. Il y a 2000 ans, à la Pentecôte, le Seigneur a ouvert le robinet général. Dans ma cité, près de Aix-en-Provence, au nord d'Aix-en-Provence, il y a un grand barrage. Ce barrage retient les eaux. Et bien sûr, la compagnie des eaux a ouvert une vanne pour que la ville d'Aix-en-Provence puisse être irriguée par cette eau. Moi, quand j'arrive chez moi et que j'ouvre mon petit robinet là, pour me laver les mains, je n'ai pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Il y a un conduit qui est branché sur le général de la compagnie des eaux. Mais cette eau, elle arrive chez moi, pourquoi ? Parce que la compagnie générale des eaux a ouvert la vanne et qu'il y a de l'eau dans toute la ville. Sinon, je pourrais ouvrir mon robinet en vain, il ne coulerait rien. Un robinet n'est rien. Il y a 2000 ans, le Seigneur a ouvert les vannes du ciel. Et chaque fois qu'aujourd'hui, quelqu'un croit en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe ? Un miracle extraordinaire. Le Saint-Esprit qui coule dans sa vie. Comment ? Mais j'ai fait que croire. Oui, mais attends, je t'ai parlé de toute l'histoire qu'il y avait derrière, quoi. Depuis l'aigle jusqu'à la Pentecôte. Et maintenant, toi, quand tu crois, tu ouvres ton petit robinet, et que se passe-t-il ? Toute la puissance de Dieu est là. C'est pas extraordinaire ? Et qui sommes-nous ? On était des gens qui ne cherchions même pas Dieu. On faisait même pas partie de son peuple. On venait de toutes les nations. Et on a le Saint-Esprit qui coule dans nos vies aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le signe de la nouvelle alliance. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes partie du peuple de Dieu. Il nous a scellés avec la troisième personne de la Trinité. Si on pouvait remettre juste ces deux derniers versets, je terminerai avec ça, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est bien le signe de la nouvelle alliance. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez ouvert le robinet. Que s'est-il passé ? Vous avez tout le plan de Dieu derrière qui s'est accompli. Et c'est le miracle de Dieu dans votre vie. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pas extraordinaire ? Nous sommes les héritiers d'une histoire millénaire. Nous sommes au bénéfice d'une promesse extraordinaire. Jamais alliance plus forte n'a été contractée avec les hommes. Et nous en faisons partie. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole.